J'ai été trop vite dans la besogne le dimanche dernier lorsque je vous ai dit que nous mettions un terme à la série d'enseignements sur les deux concepts que la parole de Dieu utilise pour exprimer la réalité de cette dernière, la réalité de la parole. J'étais convaincu que j'allais commencer une autre série ou vous prêcher autre chose. Mais en milieu de semaine, c'est finalement la conviction du Seigneur qui s'est imposée. Alors, par conséquent, je reviens vers vous pour vous dire que nous allons poursuivre un tant soit peu notre pèlerinage à travers le Nouveau Testament, à la rencontre des hommes et des femmes qui ont expérimenté la puissance et l'efficacité, mes amis, de la parole du Christ. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, le Logos et le Rhéma, 9e chapitre ou 9e épisode. Nous allons, sans plus tarder, lire un texte tiré de l'évangile de Jean, le 4e évangile, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 54, qui est la fin même de ce chapitre 4. Nous lisons. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ses témoignages. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Rien n'est donc caché aux yeux du Seigneur. Alléluia. Nos vies sont à nu devant lui, à découvert. Verset 40. Aussitôt aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Gloire à Dieu. Verset 43. Après ces 2 jours, donc en Samarie, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Donc il monte vers le nord, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là à Capernaum un officier royal, dont le fils était malade. Il y a un souci? Dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, et il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté, donc à 13 heures. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Amen. Jésus, quand il passe quelque part, eh bien les solutions sont trouvées, même aux problèmes insolubles. Quand il passe quelque part, eh bien, l'espoir renaît. Alléluia. Avant d'aller plus loin, comme nous vous encourageons à lire, à méditer la parole de Dieu, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport au verset 54. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Était-ce le deuxième miracle? Je vous pose la question. Hein? Non, c'est le deuxième miracle à Cana. Mais ce n'est pas le deuxième miracle depuis qu'il avait commencé le ministère. Il avait déjà accompli des miracles à Jérusalem. Ceci pour vous dire, quand vous méditez la parole, si vous voulez mieux connaître la parole de Dieu, il faut la lire entièrement, de manière systématique. Vous voyez, regardez autour et alentour de tout ce passage pour mieux le comprendre. Je referme donc la parenthèse très rapidement. La parole de Dieu, le Logos et le Rhéma. Nous allons une fois de plus, et vous l'avez certainement remarqué par la lecture de ces passages, revenir, mes amis, sur la puissance et l'efficacité des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Ce ne sont pas des vains mots, ce ne sont pas des paroles creuses. Tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est porteur de vie. La parole du Christ est esprit et vie. Alléluia. Et nous pouvons nous en rendre compte à la lecture et à la méditation de cette portion de l'Écriture. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous devons fonder notre foi sur ce que sa parole déclare. Nous devons nous asseoir, non pas sur des prétendues visions, rêves, prophéties, mais notre foi, mes amis, doit reposer entièrement sur les paroles, mes amis, inébranlables, les paroles fermes, les paroles puissantes, les paroles efficaces de Jésus-Christ de Nazareth. Et gloire à Dieu. Nous allons donc aujourd'hui aller à la rencontre d'un homme qui a aussi expérimenté la puissance, mes amis, des paroles du Christ, un homme qui a expérimenté le miracle. Après avoir cru, après avoir fait confiance, après avoir obéi aux paroles du Christ. Il s'agit donc d'un officier romain qui vivait à Capernaum ou Capharnaüm, de l'hébreu Capharnaüm, c'est-à-dire le village de Naoum. Cette petite ville se trouvait sur la rive nord de la mer de Galilée. Donc nous sommes dans le nord. Pour vous situer un tout petit peu la géographie, vous avez la Galilée au nord, vous avez la Samarie au centre, et vous avez la Judée au sud avec Jérusalem. Ça va? Cette petite ville de Capharnaüm ou Capernaüm, eh bien, était le siège d'une garnison romaine. Il y avait donc une garnison de soldats romains dans cette petite ville, qui était aussi la ville du Seigneur. Vous pouvez lire dans Matthieu 4, 13, en passant. Donc, c'est l'histoire de cet officier royal qui nous intéresse. Officier royal, c'est-à-dire quelqu'un qui était au service du gouverneur de cette région, qui n'était autre que un des fils d'Hérode le Grand, à savoir Hérode Antipas, que l'on considérait être revêtu d'une dignité royale. Comment ça? Eh bien, vous devez savoir que son père, Hérode, surnommé le Grand, avait reçu du Sénat romain le titre de roi des Juifs. Ça va? Et donc, par conséquent, un de ses fils, en l'occurrence Antipas, eh bien, était considéré comme étant revêtu de la dignité royale. Et par conséquent, eh bien, cet officier était au service du gouverneur de Galilée. C'est donc l'histoire de cet homme officier de son état qui a eu un jour dans sa vie à croire, à avoir foi dans la parole du Christ, dans le rhéma du Seigneur, et avoir vécu la conséquence de recevoir la parole du Seigneur dans le cœur. Vous voyez? La conséquence de faire confiance à cette parole, c'est que cette parole avait fini par susciter la foi, la confiance dans cette parole pour finalement expérimenter de manière inéluctable, mes amis, le miracle, à savoir la guérison de son fils qui était près de mourir. Il a donc quitté Capernaum, ou Capernaum, donc de l'autre côté, pour aller de l'autre côté du lac de Galilée, c'est-à-dire à Cana, rencontrer les seigneurs. Il faut savoir qu'entre les deux villes, il y avait plus de 30 kilomètres. Donc cet homme était déterminé. Cet homme avait compris, comme nous allons le voir, que la seule réponse à son désespoir, la seule réponse à la situation dans laquelle il se trouvait, eh bien, portait un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Donc cet homme a parcouru plus de 30 kilomètres pour rencontrer le Seigneur Jésus et implorer ainsi son intervention en faveur de son fils qui chaque jour s'approchait de la mort, de l'issue fatale. Combien de temps a duré cette maladie? La parole de Dieu ne le dit pas. En tous les cas, ceci n'a aucune importance. Il fallait agir vite, il fallait trouver absolument une solution, mais où l'a trouvé cette solution? Voyez-vous, où l'a trouvé cette solution? Certainement qu'il a cherché cette solution à Capernaum, dans la ville où il était caserné, en tant qu'officier. Mais personne n'a pu lui donner la réponse, personne n'a pu lui donner la solution. Mes amis, dans ce cas-là, lorsque vous êtes dans une situation similaire comme celle de l'officier romain, eh bien, vous vous posez toutes sortes de questions. La maladie est là, chaque heure qui passe rapproche, eh bien, le petit garçon de la mort, on se pose des questions du genre, que faire? Comment faire? Où trouver le remède à cette maladie? Quel spécialiste dans notre région pourrait s'occuper de mon fils, du garçon? Nous voyons donc que cet homme était plongé dans une sorte de trou noir, lui l'officier de son état. Il ne savait quoi faire, il était complètement désarmé. Malgré le pouvoir qu'il avait de par sa position dans l'armée romaine, malgré le pouvoir qu'il avait sur les habitants, mes amis, de Capernaum, parce que la Terre Sainte était dirigée autrefois, était soumise aux griffes de fer de la puissante et impériale Rome. Que faire? Pour lui, aucune lueur d'espoir à l'horizon. Mes amis, qui que nous soyons, il arrivera ou il arrive même que nous soyons confrontés à des situations qui nous dépassent. Des situations pour lesquelles nous n'avons aucune solution. Des situations, mes amis, qui nous maintiennent comme au pied du mur. Nous avons essayé de remuer ciel et terre. Nous avons essayé de secouer le cocotier, rien à faire. En tant qu'officier royal et jouissant d'un certain pouvoir, cet homme a eu peut-être à réquisitionner les meilleurs spécialistes de la région pour qu'il puisse s'occuper de son fils. Mais enfin, c'est le désespoir le plus total. Il est dans une situation anxiogène. Mes amis, face à la mort, nous sommes tous égaux. Pauvres, riches, nous sommes tous égaux. Face à la mort, personne ne peut dire que moi je suis spécial. Lorsque le lugubre moissonneur se lève et se dresse devant nous, lorsque le funeste moissonneur s'approche de nous et que nous avons à lutter contre la mort, eh bien, dans ce combat-là, nous sommes toujours perdants. Nous sommes toujours perdants face à la mort. Sauf, gloire à Dieu, sauf si celui qui s'appelle la résurrection et la vie, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, passe par là. Car lui a le pouvoir non seulement d'éloigner la mort de nos corps, la mort de nos vies, mais il a aussi le pouvoir, mes amis, d'apporter la vie lorsque la mort est passée par là. Gloire à Dieu. La Bible nous révèle Jésus, et c'est d'ailleurs lui-même qui le dit, comme étant celui qui a les clés de la mort et de ce jour de mort. Alléluia. Apocalypse chapitre 18, c'est lui qui le dit. Je suis le premier, le dernier, j'étais mort. Je suis vivant pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, dans ce combat contre le lugubre moissonneur, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers celui qui s'appelle la vie. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Jésus. Revenons à notre homme, à l'officier royal. Dans cette épreuve, cette dure épreuve, dans cette situation qui lui paraissait sans issue, sa route, mes amis, va, par la grâce de Dieu, croiser le chemin de Jésus. Alléluia. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé, jusqu'à ce que la grâce de Dieu l'attire à Christ. Car il n'y a pas de hasard. Comme lui-même le Christ le dira, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Voyez-vous, sa route enfin va croiser celle du Christ, celle de celui dont la parole est créatrice, celle dont la parole apporte la vie là où la mort a frappé, celui dont la parole est puissante pour détruire tout germe de maladie, toute pathologie, quelle qu'elle soit. Celui dont la parole, mes amis, fait reculer les ténèbres, quelle que soit leur profondeur. Celui dont la parole met en déroute tous les démons, y compris le diable lui-même. Cet homme apprend, par la grâce de Dieu, que Jésus est venu de Judée, donc du sud, vers la Galilée, donc vers le nord. Eh bien, ce détail suffit pour dire que cet homme avait entendu beaucoup de choses concernant la personne de Jésus, mais aussi concernant les faits, les miracles, les prodiges qu'il accomplissait. Il a appris que Jésus est monté de Judée vers la Galilée. Alors l'homme s'est dit, je suis à plus de 30 kilomètres de Cana, là où se trouve Jésus. Eh bien, je vais tout faire pour y aller. Il avait entendu, il avait appris beaucoup de choses concernant le ministère du Seigneur. Il avait appris qu'avec Jésus, Jésus, le Seigneur de gloire, les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient, les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient. Voilà tout ce qu'il avait entendu. Et ce qu'il avait entendu concernant le Seigneur, eh bien, avait fini par susciter un brin de foi, un brin de confiance par rapport à la personne du Christ, mais aussi par rapport à ce don qu'il était capable d'accomplir lorsque les gens lui apportaient leurs problèmes, leurs préoccupations. Et gloire au Seigneur. Donc l'homme apprend que Jésus est à Cana, à plus de 30 kilomètres, et décide d'y aller. Il ne regarde pas la distance, il ne regarde pas au prix à payer. À l'époque, il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas d'esprit des morts ou d'esprit de vie, il n'y avait pas de bus, rien du tout. Donc à l'époque, prendre la route était toujours quelque chose de périlleux, quelque chose de difficile. Mais l'homme était décidé. Il s'est dit, la santé de mon fils n'a pas de prix. Alléluia. La santé de mon fils n'a pas de prix. Puisque j'ai appris qu'il ressuscite les morts, alors j'irai le voir. Puisque j'ai appris qu'il guérit toute maladie, j'irai le voir. Puisque j'ai appris qu'il a le pouvoir de chasser les démons, de libérer les captifs du diable, de briser l'emprise démoniaque sur la vie des gens, alors j'irai le voir. Tout cela a fini par déclencher mes amis, une démarche en lui, démarche qui va le mettre sur la route, le menant de Capernaum à Cana. Et gloire à Dieu. Quand il arrive, mes amis, il va tout de suite voir Jésus et lui présenter son besoin, sa préoccupation. Il prie le Seigneur de descendre le plus vite possible afin de guérir son fils qui, chaque heure qui passait, eh bien, était menacé par la mort. Chaque jour qui passait, eh bien, son fils approchait de la mort, de la suprême malédiction qui soit, du moins lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Quand il arrive, le Seigneur est en face de lui. Il lui présente le besoin. Oh, alléluia. Il décline sa préoccupation. Il dit, Seigneur, descends avant que mon fils, mon petit enfant ne meure. Il le supplie, il le prie. Le Seigneur est à Cana et il ne pouvait pas passer inaperçu. Il y avait des gens. Mais cet homme a tout fait pour arriver jusque dans la présence du Christ. Ce représentant de l'État, mes amis, appelle Jésus Seigneur, reconnaissant par là l'autorité suprême de Jésus-Christ, même si, en tant qu'officier, il bénéficiait d'un certain pouvoir légal, n'est-ce pas? Eh oui, les Romains, c'était les colonisateurs. Les Romains faisaient la loi, en plus il était officier, peut-être qu'il dirigeait même la garnison romaine stationnée dans cette ville de Capernaum. Mais quand il arrive, il ne regarde pas ses galons. Quand il arrive, il ne regarde pas en son rang dans l'armée. Quand il arrive, mes amis, il s'humilie. Il dit, Seigneur, descends vite, je t'en prie, pour guérir mon fils. Qui est près de mourir, qui est mourant. Jésus répond à sa prière. Que lui dit-il, verset 50? Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Oh, alléluia. Va! Le Seigneur ne lui a pas demandé à quel point son fils souffrait. Quel était le degré de gravité de la maladie? De quoi souffrait-il? Pas du tout. Le Seigneur a vu le désespoir de cet homme. Le Seigneur a vu que cet homme était complètement abattu, affligé par l'épreuve par laquelle il passait. Et il répond tout de suite, va, oh alléluia, va, ton fils vit. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que cet homme crut, au verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Va! Il reçoit cette parole. Il reçoit ce réma qui lui dit non seulement de partir, mais il accompagne ce commandement, cette injonction d'une parole d'espoir, d'une parole d'assurance. Va, ton fils vit. Oh, alléluia. Ton fils vit. Le Seigneur affirme. Il n'a pas eu besoin de savoir comment cet enfant souffrait, de combien de temps. Pour certains, la Bible nous dit le temps qu'a duré la maladie, etc. Mais pour cet enfant, rien n'est dit. Mais pour Jésus, cela importe peu. Qu'il ait été malade pendant un mois, pendant 2 ou 3 ans, et que dans les derniers jours, cette maladie se soit aggravée, au point, eh bien, de le conduire tout doucement, mais sûrement, vers la mort, pour Jésus, cela n'a aucune importance. Oh, alléluia. Il dit un mot, et la maladie qui est à plus de 30 kilomètres, obéit à la parole du Christ. Gloire à Dieu. Va, ton fils vit. Mes amis, il n'y a qu'un qui peut dire ça. Même sans avoir occulté, sans avoir posé le diagnostic, un seul peut dire, ton fils vit. Il y a donc espoir pour toi. Tu es venu me voir. Tu repars avec le secours que tu es venu chercher. Oh, alléluia. Va, ton fils vit. Eh bien, cette parole va arriver à Capharnaüm avant l'officier. Formidable. Alléluia. La Bible nous dit, comme déjà, l'homme se met en route. Il obéit. Il ne pose pas de questions. Il avait entendu pas mal de choses. Quand il te donne sa parole, et que tu reçois cette parole, et que tu obéis à cette parole, eh bien, cette parole finit par a bien engendré le miracle. L'homme croit. Il n'a pas besoin de théologie. Il n'a pas besoin d'un diplôme, je ne sais de quelle institution de formation philologique, pas du tout. L'homme croit. Oh, alléluia. Et la foi est à la portée de chacun de nous. L'homme, alors qu'il descendait, nous dit la parole, ses serviteurs le rencontrèrent. Peut-être qu'il venait de voir tout de suite la guérison. Ce qui a dû émerveiller la famille. Cet enfant alité. Peut-être que même la famille commençait à préparer ses obsèques. Il fallait rassembler un peu d'argent pour organiser les obsèques et tout ça. Et tout d'un coup, à une certaine heure, cet enfant était complètement débarrassé de sa maladie. Et cela ne pouvait pas laisser indifférent, mes amis, sa famille. Mais aussi ses serviteurs, le soldat qui était sous sa responsabilité. Certainement qu'ils sont partis dire, il est allé chercher la solution, la guérison, mais l'enfant vient d'être guéri. Ils ne savent pas comment cela est arrivé. Il n'y a qu'un seul qui le savait, c'est le père. Le père amorce la démarche d'obéissance. Et avant même qu'il arrive à la maison, il reçoit la bonne nouvelle. Comme quoi son fils vit. Oh Jésus, il est capable de tout. Acclamons son nom. Ses serviteurs le rencontrent et lui disent que son fils vit, que son fils est en vie. Alors il s'informe. Il veut en avoir le cœur net par rapport à la parole qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Il s'informe auprès de ses serviteurs de l'heure à laquelle l'enfant s'était trouvé mieux. Et ses serviteurs lui dirent ceci, hier, vous voyez le temps dont c'était la veille qu'il était parti chercher Jésus. Hein? Donc pour eux c'était hier. Hein? Eh bien, hier, à la septième heure, c'est-à-dire en 13 heures, la fièvre l'a quitté. Et le père, l'officier royal, reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Va, ton fils vit. » Mes amis, les paroles du Seigneur sont puissantes. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Apprenons à la lire. Apprenons à la méditer, multiplions de contacts avec sa parole, passons du temps, sa présence, grandissons dans notre relation avec lui, afin que lorsqu'il nous parle, que nous puissions écouter, entendre et réagir en conséquence. Alors nous verrons de quoi il est capable. Bien que se trouvant à plus de 30 kilomètres, l'enfant est guéri, au moment même où le Seigneur proclame, au moment où le Seigneur annonce sa guérison, ton fils vit. Gloire à Dieu. Mes amis, nous devons savoir que la distance ne constitue pas du tout un obstacle pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous intercédons, même pour des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Jésus n'est pas lié par le temps, il n'est pas lié par l'espace. Et l'espace et le temps se trouvent dans sa main. Il peut être avec nous et il bénit quelqu'un pour lequel nous avons prié aujourd'hui, alors que la personne se trouve, mes amis, à des milliers de kilomètres de nous. Quel sauveur merveilleux nous avons. Quel Dieu glorieux nous avons. Arrêtez de courir après des prophètes. Arrêtez de courir après les hommes. Courez après Jésus. Alléluia. Courez après Jésus. Ne vous posez pas la question de savoir à quel saint se vouer. Non, aucun saint ne vous apportera la solution à votre problème. Mais il n'y a qu'un seul. L'officier royal ne s'est pas tourné vers les rabbins, puisqu'il y avait une synagogue dans cette ville. Il y avait des religieux, des sacrificateurs, des lévites. Il n'est pas allé là-bas, peut-être même, eh bien, il les avait trouvés que ces derniers, selon la loi de Moïse, ou selon certaines traditions que les religieux juifs, les pharisiens, avaient fini par développer tout autour de la Bible. Peut-être qu'il avait essayé tout cela, mais rien n'a marché. Voyez-vous, jusqu'à ce qu'il prenne le chemin, après avoir entendu que Jésus était à Cana. Ton fils vit. Va. Oh, alléluia. Il n'a pas insisté, Seigneur, je souhaiterais que tu sois avec moi. Il est quand même à plus de 30 kilomètres. Non! Il avait déjà entendu pas mal de choses concernant Jésus. Même à distance, il pouvait ordonner à la maladie et la maladie partir, voir la maladie partir. Même à distance, il pouvait délivrer quelqu'un qui était possédé par des démons. Pensez à cette femme syro-phénicienne dont la fille était tourmentée par des démons. La fille était à la maison. Cette femme ayant entendu, ayant appris que Jésus passait par là, elle est allée le voir. Et le Seigneur l'a rassurée. Il lui a dit, va, ta fille est guérie. Et sur le champ, à je ne sais à combien de kilomètres, la fille a été complètement débarrassée par les démons, des démons. Et là, recouvrer la liberté. Il dit, et la chose arrive, peu importe le lieu, il ordonne, mes amis, et les choses s'exécutent. Ça, c'est notre Jésus. Gloire à Dieu. L'officier croit donc dans la puissance des paroles de Jésus comme Bartimée. Rappelez-vous le dimanche dernier, Bartimée l'aveugle, Bartimée l'indigent, Bartimée, qui était considéré comme une sorte de parasite de la société, puisqu'il ne pouvait pas travailler, il devait vivre de l'aumône, etc. Bartimée, quand il entend que Jésus passe par là, et qu'il réponde à son appel, eh bien, il est parti, il s'est placé devant Dieu, devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse, maître, rabouni? Que je recouvre la vue. Et le Seigneur répond, qu'il te soit fait selon ta foi. Sur le champ, aussitôt, subito, ses yeux s'ouvrent. Et qu'il voit en premier, et quelle grâce, quel privilège. Certains, nous sommes nés, certains sont nés, la première personne qui s'est pointée devant eux, c'est un père, un papa ivre. Il avait même oublié que la femme allait accoucher dans les heures qui suivaient. Hein? À beauté. Mais lui, quand les yeux s'ouvrent, c'est le Fils du Dieu vivant qui est là devant lui. Alors on peut comprendre l'empressement avec lequel Bartimée s'est mis à suivre Jésus. Comment rester encore dans ma ville de Jéricho? Eh bien, je ne sais pas comment je vais vivre là où je pars. Mais je le suis. S'il a pu me donner la vue alors que j'étais aveugle, il pourra aussi prendre de soin de moi quant à la nourriture. Et la Bible nous dit, Bartimée se mit à suivre Jésus. Le Seigneur lui a dit, recouvre la vue. Et il a expérimenté le miracle. Oui, comme Bartimée, mais aussi, comme l'a dit le preux, dont il a été question le dimanche dernier, et aussi ont expérimenté la puissance, mes amis, des paroles du Christ. Ils sont allés chercher le secours auprès de lui. Ils étaient considérés comme étant de gens impurs, de par cette maladie terrible que la lèpre. Ils avaient été mis à l'écart, mis en quarantaine. Tant qu'ils avaient la lèpre, ils ne pouvaient pas, mes amis, eh bien, retrouver une vie normale. Retrouver leurs relations familiales, sociales ou autres. Ils ont crié à lui, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Le Seigneur le regarde. Eh bien, il ne prend pas quelque chose de spécial, la poussière, comme pour les impressionner, non. Quelle heure, dit-il, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Allez. C'est dit, les brebis ne se sont pas posé des questions. Ils ne se sont pas dit, mais nous ne pouvons pas aller le voir tant que nous ne sommes pas guéris. Parce qu'il fallait qu'il y ait une amélioration au niveau de la maladie pour que le lépreux quitte là où il était mis en quarantaine, aller voir le sacrificateur qui posait un certain diagnostic, et s'il voyait qu'effectivement la lèpre avait disparu, eh ben, il déclarait pure la personne, et ainsi la personne retrouvait la place qu'elle avait perdue autrefois à cause de cette maladie. Mais voilà que Jésus leur dit, allez. Oh, il est celui qui est venu accomplir la loi. Et il se trouve que pendant qu'ils allaient, c'est-à-dire par obéissance à la parole du Christ, ils furent tous purifiés. Ils furent tous guéris. Immédiatement, ils ont expérimenté la guérison. Et pour le fils de l'officier, ça a été la même chose. Aussitôt que le Seigneur a proclamé cette parole, « Va, ton fils vit. » Eh bien, là où il était, malgré la distance, le fils a expérimenté la guérison. Mes amis, encore une fois, n'oubliez pas, Jésus est l'initiateur de la foi, mais aussi son accomplisseur. Celui qui suscite la foi, mais aussi qui l'amène à la perfection. Les paroles de Jésus, dois-je vous le rappeler une fois de plus, sont plus vraies, sont plus puissantes que n'importe quelle situation adverse. Cherche la face de Dieu. Cherche, mes amis, à recevoir cette parole. Et quand tu l'auras reçue, peu importe ta situation, eh bien, elle trouvera une issue. Car lui est capable de tout. En étudiant très rapidement ce passage, cette portion de l'Écriture sainte, nous pouvons voir comment la foi de l'officier s'est exprimée, mais aussi comment cette foi a évolué. Une foi dynamique qui a rendu possible le miracle. Et foi qui a atteint son paroxysme, qui a atteint son apogée, qui a atteint son point culminant, qui a atteint son climax à la fin du passage, comme nous allons le voir. Premièrement, voyons comment très rapidement la foi de cet homme a évolué. D'abord, cet homme a assez de foi pour aller demander à Jésus, parcourir plus de 30 kilomètres, afin d'aller demander à Jésus de guérir son fils. Il y avait déjà quelque chose dans son cœur par rapport à la personne du Christ, mais aussi par rapport à la puissance qu'il avait, puissance de sa parole. Tout ce qu'il avait entendu, comme je l'ai souligné, concernant les actes, les faits, les miracles, mais aussi tout ce qu'il avait entendu à propos de vérité concernant Jésus-Christ, eh bien, tout cela, comme on dit, les dictats et les gestats, eh bien, tout cela ont fini par engendrer une foi dynamique. Mais cette foi était appelée à grandir. Il aurait pu rester, hein. Il aurait pu rester seulement au niveau de l'information. Oui, j'ai appris, j'ai entendu, j'ai même vu des gens qui avaient expérimenté telle ou telle autre bénédiction de sa part. Et puis, s'arrêter là. Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je serre ma ceinture, eh bien, je vais le voir. Voilà la première chose. Ensuite, la deuxième chose. L'officier croit à l'assurance donnée par Christ concernant la guérison de son fils. Et ce, malgré la situation qui empirait de jour en jour. Le Seigneur le rassure. Cette assurance, il l'a par la parole du Christ. Alléluia. Cette assurance est donc la conséquence de sa foi, de sa confiance, confiance et foi qui s'est manifestée par ce parcours de cet homme jusqu'à Cana pour rencontrer Jésus et s'entendre dire de la part du Seigneur, « Va, ton fils vit !» Gloire au Seigneur. L'assurance. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la définition de la foi? Telle que nous la trouvons dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Si on peut nous afficher ce passage, j'aimerais que nous puissions la lire très rapidement tous ensemble. Or, la foi, celle dont nous sommes en train de parler, celle qui a pour initiateur Jésus-Christ, pour accomplisseur Jésus-Christ, eh bien écoutez ce que la Bible nous dit. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, par le rhéma de Jésus, par la parole de Jésus, eh bien, cet homme reçoit l'assurance de la chose espérée. Dites-moi, qu'est-ce qu'il espérait? Répondez-moi. La guérison, non? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il espère la guérison, alléluia. Et par la parole du Christ, il reçoit l'assurance par rapport à cette parole. Alors vous comprenez pourquoi il a obéi tout de suite. Il reçoit l'assurance par la parole du Christ. Ce n'est pas de la présomption, non. Et je dis, bah ok, je veux partir, il est guéri. Non, c'est une assurance qui a été suscitée, engendrée, générée en lui par le rhéma, par la parole qui est sortie du Christ. Va, ton fils vit. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles. Ensuite, il y a l'assurance de la chose qu'il espérait, à savoir la guérison. Ensuite, il reçoit la conviction par la même parole du Christ qu'il en sera comme Jésus l'a proclamé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va, ton fils vit. Alors même qu'il n'est pas encore arrivé à la maison pour se rendre compte, mes amis, de la vérité, de la réalité des paroles du Christ. Il n'est pas encore arrivé. Il ne dit pas, mais Seigneur, ok, mais j'attends. Moi, j'ai des serviteurs. Je vais envoyer vite un soldat. Il va faire une journée de marche. Il va aller s'enquérir de la situation. Et puis ensuite, il reviendra pour m'apporter le nouvel. Il n'a pas agi comme ça. Pour lui, cela était suffisant, pleinement suffisant. Il a dit, la chose va s'accomplir. Gloire à Dieu. Enfin, cet homme le démontre. Il y a l'assurance. Il y a d'abord tout ce qu'il avait entendu, qui avait fini par susciter la foi. Et puis, quand il arrive en face du Seigneur, il lui donne la parole. Cette parole lui communique l'assurance quant à la chose qu'il espérait tant, à savoir la guérison. Et enfin, il démontre sa foi par une obéissance à la parole de Jésus. Va, ton fils vit. Eh bien, l'homme, certainement qu'il l'a remercié, il dit, Seigneur, merci. Il s'est retourné. Capharnaüm est là devant lui. Cana avec le Seigneur derrière lui. Il a sa parole. Il a dit, même si je n'ai pas encore vu, mais je sais une chose, c'est que cette parole est déjà accomplie. Parce qu'il n'a pas dit va, il va guérir. Mais il a dit va, ton fils. C'est affirmatif. C'est déclaratif. C'est définitif. Alléluia. Il n'y a qu'un qui peut parler de cette manière. Va, ton fils vit. Eh bien, cet homme se met en route très rapidement. Il se met en route pour sa maison avec une conviction. Une conviction qu'il allait trouver son fils complètement guéri. et n'ont pas assisté à ses obsèques. Voyez, je pars, non pas pour trouver des gens en larmes, en pleurs, parce que l'enfant est mort pendant que j'étais parti à Cana. Non, je pars, je vais trouver mon fils vivant, parce que lui, Jésus-Christ de Nazareth, a dit qu'il vit. Il est parti. Voyez-vous? Il s'est dit, je vais trouver mon fils bien portant. Et non pas un mort. Et non pas un défunt. Finalement, le point culminant de sa foi, c'est que lui et toute sa maison, sa maisonnée, lui et toute sa famille vont finir par croire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 53, le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maisonnée. Et il crut. Mais il a cru, ou ils ont cru en quoi? Parce qu'il avait cru pour la guérison. Et cette fois-ci, il croit, lui et toute sa maison. Eh bien, cette fois-ci, lui et toute sa maisonnée croient, cette fois-ci, qui est Jésus. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est la vérité, il est la vie, il est la résurrection. Oh, alléluia! Donc, tout ce que j'ai entendu sur lui est vraiment vrai. Qu'est-ce que j'ai entendu sur lui? Eh bien, comme les Samaritains, au verset 42, le passage que nous avons lu, eh bien, ils avaient cru que Christ, que Jésus, est vraiment lui le sauveur du monde. Donc, il a cru qu'en effet, il est le sauveur du monde. Alléluia. Donc, il a cru, lui et toute sa famille, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que celui par qui on peut s'approcher, peut-être que les Juifs avaient voulu le gagner à leur religion, mais cette fois-là, il réalise que l'homme n'a pas besoin de religion. Fut-elle monothéiste, l'homme a besoin d'une personne, a besoin d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Donc pour lui, le miracle est un signe qui l'amène à croire en qui Jésus est. Un signe, dis-je, oui. Dans le quatrième évangile, l'évangile dans lequel nous avons lu cette histoire, eh bien, l'apôtre Jean utilise un mot grec que nous avons traduit dans nos versions françaises par miracle. Normalement, l'apôtre utilise le terme séméia, ce qui a donné en médecine sémiologie, séméia, donc, ou séméion, au singulier, qui veut dire littéralement signe. C'est un signe. Pour Jean, l'apôtre, mes amis, eh bien, les miracles accomplis par Jésus ne sont pas seulement une manifestation, une démonstration de sa puissance face aux besoins de ses disciples, face aux besoins et aux attentes de toutes ces personnes qui venaient vers lui, mais les miracles sont avant tout des signes qui révèlent Jésus. La révélation reste, mais les miracles passent. Ce dont nous avons besoin, c'est de recevoir la révélation du Seigneur derrière le miracle. Il te donne à manger, tu passais par un moment de sécheresse financière et tout ça, tu ne savais quoi faire, et puis tout d'un coup, il t'envoie la bénédiction, tu as de quoi, eh bien, payer le Minerval de tes enfants, c'est un grand miracle, gloire à Dieu. Mais ce Minerval, c'est pour une année scolaire, oui ou non? Après, l'année après, ça sera, mais ce qui est important, c'est la révélation derrière son intervention. Comment se révèle-t-il comme celui qui pourvoit tous nos besoins? Eh bien, cette révélation va rester et va nous accompagner et nous aider dans d'autres besoins. Donc, pour Jean, tous ces miracles que le Seigneur accomplit sont d'abord et avant tout des signes qui démontrent qui il est. D'ailleurs, nous l'avons vu la fois dernière, il y a quelque temps, lorsque le Seigneur, après avoir calmé le vent par rapport à cette barque qui était ballottée par une mer agitée, et qu'il monte dans la barque avec Pierre, la Bible nous dit quand il arrive dans la barque et que le vent cesse, les disciples, tous ceux qui étaient dans la barque, se prosternèrent devant lui et proclamèrent ceci, « Tu es véritablement le Fils. » Voilà l'apogée de la foi. Voilà le point culminant de la foi. C'est de nous conduire à la révélation de la personne de Jésus. Oh, alléluia! En conclusion, recherchons, mes amis, la face du Seigneur. Développons une relation intime avec lui, afin que lorsque nous prions par rapport à tel ou tel autre besoin, nous puissions être en mesure, nous puissions avoir cette capacité d'entendre sa voix, de laisser sa parole venir en nous et susciter la foi appelée à nous faire entrer dans l'univers de miracles. Recevoir de lui l'assurance, la certitude qu'il est tout puissant pour solutionner tous nos problèmes. Alléluia. Tout puissant pour accomplir les promesses qu'il nous a laissées dans sa parole écrite. Tout puissant pour accomplir les rêmes qui sortent de sa bouche. Alors, mes amis, celui que l'officier royal avait rencontré pour qu'il intervienne en faveur de son fils qui était mourant, alors que Jésus se trouvait à plus de 30 kilomètres, celui-là, par rapport à l'officier romain, c'est Jésus est présent parmi nous. Nous n'avons pas besoin de parcourir autant de kilomètres pour aller les chercher. Nous n'avons pas besoin d'aller sur une montagne, soit-elle sacrée, pour aller recevoir la bénédiction. Non, pour autant que sur cette montagne, Jésus y soit. N'est-ce pas? Eh oui. Sinon, ça sert à quoi? Ça peut vous faire du bien. Vous allez sur le mont Kilimandjaro, c'est formidable, et puis vous redescendez rien. L'avantage que nous avions, que nous avons par rapport à l'officier, c'est que nous n'avons pas à faire plus de 30 kilomètres pour aller chercher le secours. Celui qui donne le secours est présent. Alors acclamons-le. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais donner l'occasion très rapidement à certains d'entre nous de prier par rapport à tel ou tel autre besoin. Tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui un besoin, que ce soit pour une personne qui est avec nous ou qui est ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Avec Jésus, la distance ne compte pas. Alors prions avec foi et attendons-nous à ce qu'il nous donne sa parole. Et que cette parole suscite en nous, eh bien, la guérison. Seigneur, quel bonheur de savoir que tu n'as pas changé. Ce que tu as été hier, tu l'es aujourd'hui et tu le resteras pour l'éternité. L'officier romain n'est plus de ce monde. L'enfant qui avait été guéri sur simple parole sortie de ta bouche n'est plus de ce monde. Mais toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours le même. Et ta puissance n'a pas changé. Ô Dieu, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à manger ta parole. Apprends-nous à nous ouvrir à toi, afin que par ton esprit, tu puisses déposer un rhéma dans nos cœurs par rapport à un besoin particulier. Et que, Seigneur, tu nous donnes en même temps la force d'obéir pour enfin, pour finalement voir cette parole devenir une réalité, une guérison, une délivrance, une porte qui est restée fermée, verrouillée et qui tout d'un coup s'ouvre. Oui, avec toi, tout est possible. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Veille également, Seigneur.